Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Nicolas Voller et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ça va Damien?
Ah, super Nicolas.
Le week-end a été bon?
Oui, très bien. Je me suis peigné parce qu'on reçoit quelqu'un d'important aujourd'hui.
Absolument. Alors, et on n'accueille pas dans ce studio un animateur ou un comédien, comme c'est plutôt le cas habituellement, mais l'un des patrons des médias les plus scrutés cette saison. Pourquoi? Parce qu'il gère tout simplement les antennes du premier groupe audiovisuel de France et s'apprête à diffuser ce que beaucoup qualifient d'ores et déjà d'événement sportif le plus attendu du siècle. Bonjour Stéphane Simon Gomez. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des antennes des programmes de France Télévisions, numéro 2 du service public. Avant qu'on se projette sur les mois à venir et notamment ces fameux JO dont on va parler, je voudrais qu'on revienne un petit instant dans le rétroviseur et notamment sur le bilan de cette première moitié de saison avec notamment les audiences annuelles. Alors, c'est super parce que France 2 est la chaîne qui progresse le plus, France 3 est la chaîne qui perd le plus. Vous êtes quoi, mi-figue, mi-raisin sur cette saison ou pas encore ?
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter.
Avec
très
plaisir.
Honoré d'être un des rares invités qui
Média
ne
du
pas,
buzz.
Voilà. Non, nous, on a fait une année 2023 totalement exceptionnelle et on est ravis de notre progression. D'abord, France 2 bat tous les records. Si on avait imaginé il y a quelques années que France 2 passerait les 15% de PDA.
Vous n'avez jamais été aussi près de TF1, hein, c'est un peu plus de 3 points.
Hein, oui, mais au-delà de TF1, on n'a surtout jamais été. Bien ça sûr. Fait 11 ans, et il faut retourner 11 ans en arrière pour retrouver des scores comme ça. C'est vrai que sur France 3, on a une baisse un peu conjoncturelle.
Moins 0,4. Oui.
Qui est liée à l'arrêt de Plus belle la vie, qui représente 0,3. C'était la première année où il n'y avait pas du tout Plus belle la vie.
Oui.
Comme TF1 a repris le feuilleton, c'est un transfert de France 3 à TF1, donc on leur file un coup de main.
Toujours pas de regrets au vu des audiences qu'ils ont fait ces premières semaines, qui sont plutôt pas mal. Hein.
Bon, les audiences sont super, ouais. De Plus belle la vie, mais moi, aucun regret. Nous, notre rêve, ce qu'on aime dans la télé, c'est d'inventer. On pense qu'on a toujours raison d'inventer, qu'on a toujours raison de lancer des nouveaux programmes. Ça faisait 17 ans que Plus belle la vie était sur France 3. Et là, ils l'ont entièrement renouvelé, tant mieux pour eux. Et puis, on est toujours content de donner des idées aux copains du privé.
Alors, il y a juste un chiffre qui est inquiétant, mais pas que pour vous, pour le reste, c'est la baisse qui est désormais continue, hein, de la durée d'écoute, 3h19 en 2023, 3h26 en 2022. On était, je rappelle, il y a 5-6 ans encore à 3h50 en 2007. Ça vous inquiète, ça, Stéphane, de manière générale ?
Pas vraiment, c'est une évolution du média.
Ouais.
Moi, ce que je retiens de l'année 2023, c'est que France.tv, notre plateforme, est la plateforme de streaming qui a le plus progressé de tout le marché. Qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont pris le réflexe de venir consommer leurs programmes, leurs fictions, même l'info sur France.tv. Après, oui, en linéaire, la durée d'écoute, elle baisse, notamment chez les plus jeunes.
Ouais.
C'est une évolution. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache se réinventer. On ait un France.tv qui soit capable de fédérer autant qu'on l'a fait sur le linéaire. Donc, c'est plutôt pour nous un défi qu'une fatalité. On n'est pas en train de s'apitoyer tout le temps sur le fait que le média est en train de se renouveler.
Alors, la rentrée a été également marquée par la disparition des journaux nationaux sur France 3 au profit des éditions locales un peu plus musclées. Les JT de la mi-journée du soir s'intitulent désormais Ici 12-13 et Ici 19-20. Est-ce que les téléspectateurs sont en rendez-vous de ces deux nouveaux rendez-vous ?
Alors, ils sont plus qu'au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, les JT régionaux, et d'ailleurs les dernières semaines, ils ne cessent de progresser et on a totalement retrouvé le bassin d'audience précédent. C'est un changement très profond, hein, la régionalisation de France 3. Vous savez, ça fait 30 ans, moi, quand je suis arrivé à France Télévisions, on me disait France 3, on ne comprend pas bien, c'est une chaîne nationale ou c'est la chaîne des régions. On a clarifié ça au cours des 3 dernières années. France 3, c'est totalement la chaîne des régions et donc pour ça... Le cœur, c'est l'info. Et donc, on a choisi de mettre le paquet sur l'info des régions. Et toutes les rédactions se sont énormément mobilisées pour produire un JT qui dure quasiment le double de ce qui durait précédemment. C'est un vrai effort. Évidemment, ça suscite des tensions, des interrogations.
C'est ce que j'allais vous dire, les rédactions, ça a été difficile.
Il y a eu un mouvement de grève assez sérieux et suivi, et on a écouté. Mais en tout cas, le cap mis sur la régionalisation, on est très fiers de l'avoir porté. On a été convaincus encore plus après la crise des Gilets jaunes. Ouais. Il y a une demande aujourd'hui, avec la fracture territoriale que traverse notre pays, que l'info soit au plus près des citoyens. Et c'est le rôle du service public, parce que ça, personne d'autre que nous ne peut le faire, personne d'autre que nous ne peut mettre des moyens aussi significatifs en région, en Outre-mer.
On démarre ces news médias, Damien, avec Michel Drucker, qui a fait parler de lui. Il était invité dans quelle époque ?
Absolument. Léa Salamé recevait l'animateur de Vivement Dimanche dans son talk show samedi soir sur France 2. L'occasion pour elle d'évoquer bien évidemment avec lui l'émission qu'ils vont inaugurer tous les deux à l'occasion des Jeux Olympiques. On va en parler ensemble dans quelques instants. Mais surtout, la journaliste est revenue sur les opérations du cœur que Michel Drucker a subies au cours de ces dernières années. Et il a rappelé que Delphine Erhanode, la présidente de France Télévisions, et vous, Stéphane Sidbon-Gomez, vous lui avez rendu visite avant sa toute première opération. C'était en 2020, afin de lui assurer que vous alliez l'attendre le temps qu'il se remette de cette intervention chirurgicale, mais que de toute façon, il retrouverait son canapé une fois la convalescence terminée.
C'est un animateur dont vous ne vous séparerez jamais, Michel Drucker, Stéphane.
Moi, j'ai un attachement très personnel à Michel Drucker. Il faut que vous sachiez, il y a un an, on a eu un journaliste américain qui est venu nous interroger et qui voulait rencontrer Michel. Et qui lui a dit, écoutez, j'ai étudié dans le monde entier, ça n'existe pas, il n'y a aucun animateur qui a une longévité aussi
importante. 60 ans de carrière cette année.
60 ans de carrière.
Il a démarré en 64.
Michel est rentré en 64 pour les JO de Tokyo.
Ouais.
C'est pour ça que je lui ai demandé d'être avec nous pour les JO de Paris 2024. 60 ans de carrière, c'est impressionnant. Et donc, oui, on a toujours été à ses côtés. Et puis, ça continue de marcher. Hein. Hier encore, Michel a fédéré 1 million de téléspectateurs sur Vivement Dimanche, qui est maintenant sur France 3. Et donc, il continue à porter et à rassembler son public. Moi, je suis allé plusieurs fois voir Michel en spectacle en région.
Dans son one-man show.
Dans son one-man show.
Sa carrière, oui.
Et il a un public incroyable qui suit Michel depuis des décennies.
Alors, pour sa rentrée, quelle époque a rassemblé 1,2 million de téléspectateurs, soit 17% de part d'audience. Le pari de confier les rênes des samedis soirs à Léa Salamé seule, il est réussi ?
Ah, il est plus que réussi. Il est au-delà de nos espérances.
Ouais.
Mais Léa Salamé, elle a écrit... Un livre qui lui ressemble, « Femme puissante ».
Oui.
Et je pense qu'aujourd'hui, elle fait partie des journalistes qui incarnent la puissance, et qui incarnent la puissance à la télé, mais dans la capacité aussi à se renouveler, à se réinventer. Et elle arrive à faire ça avec talent. Et quelle époque, depuis un an et demi, est réellement un des grands succès du service public. Vous savez, rembobiner, il y a 2 ans, on disait finalement le samedi soir, c'était un rendez-vous pendant 30 ans, c'est un peu fini. Aujourd'hui, les gens préfèrent regarder Netflix le samedi soir. Moi, je vois aujourd'hui je reçois des messages de centaines de Français qui disent on attend le samedi soir notre rendez-vous, parce que c'est vraiment le talk show qui fédère tout le monde et qui fait les audiences de deuxième partie de soirée auxquelles personne n'arrive à les approcher.
Du coup, pas de regret d'avoir laissé partir Laurent Ruquier, j'imagine, après 15 ans de bon œil au service.
Non, mais c'est la même question que tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut toujours être capable de se réinventer, de se renouveler. Laurent lui-même, il avait envie de nouvelles aventures et on ne s'est pas rencontrés, mais moi, pour le coup, je continue à considérer que c'est un grand artiste et un talent assez fort de la télé et qui fera encore beaucoup de belles choses. Hein.
Alors, il a récemment déclaré à nos confrères du Parisien au cours d'une interview, je vais le citer, « Je ne veux faire de la télévision que si je suis aimé des gens qui m'emploient », ce qui n'était pas le cas à France 2, ce qui n'était plus le cas, pour être très précis.
Cas, oui.
Oui, voilà. Est-ce que vous ne l'aimiez plus, Laurent Ruquier, pour être très clair ?
Oh non, non, moi, je l'aime toujours. Je ne sais pas si c'était réciproque, mais en tout cas, on ne s'est pas rencontrés. On ne s'est pas rencontrés sur les désirs de création qu'il avait, sur les nouveaux programmes qu'on voulait développer. Mais je pense que c'est un animateur populaire et qui restera un des grands artistes populaires.
Son échec à BFM, pour vous, c'était une sacrée tentative. Pas facile de changer de genre comme ça.
Moi, je souligne plutôt le courage et l'audace qu'il a eu à aller sur une chaîne d'info continue, à aller faire une proposition alternative à ce que font d'habitude les chaînes d'information continue. Il a plutôt été audacieux, donc la chance sourit aux audacieux et pour avoir l'audace, il faut tenter. Il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent moins bien. Moi, je pense que la télé, elle meurt de la fainéantise. Ouais. Elle meurt des gens qui n'osent pas faire des tentatives. Donc, quand vous faites des tentatives, il faut accepter de se planter parfois.
On ne va pas lui reprocher ça. C'est vrai. On finit ces infos aux médias, Damien. Ça vous intéresse, Stéphane, avec Gabriel Attal, qui va jouer dans une fiction sur France.tv.
Exactement. Selon nos confrères du Parisien, le chef du gouvernement s'apprête à endosser son propre rôle dans un épisode de la série Askip, qui raconte le quotidien d'une bande de 12 collégiens au moment du tournage qui s'est déroulé en décembre dernier. Gabriel Attal était encore ministre de l'Éducation nationale et c'est la raison pour laquelle il a accepté ce petit pas de côté, parce qu'il a fait en fait une apparition dans un épisode consacré au harcèlement harcèlement scolaire. Il consolera dans cet épisode un élève en pleurs. Et il va prononcer également un discours devant les élèves du collège. On sait que c'est une cause qui lui tient à cœur maintenant, surtout depuis l'interview qu'il a accordée à nos confrères de 7 à 8, dans laquelle il a révélé qu'il a été victime lui-même de harcèlement scolaire, et ce pendant de longs mois.
Bon, il n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais j'imagine que la séquence va être gardée. Vous avez un point commun avec Gabriel Attal, évidemment, c'est la politique. Hein. Vous avez été conseiller de Cécile Duflot au ministère du Logement. La politique, Stéphane, c'est définitivement derrière vous. La télé, est-ce qu'elle a pris le pas aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous interdisez pas dans un avenir d'y regoûter à la politique?
Ouais, pour moi, c'est une page qui est complètement tournée et avec beaucoup de bonheur. Hein. J'ai fait de la politique de 14 à 25 ans globalement et puis maintenant j'ai un métier qui est la télévision.
C'était pas un métier, content, c'est ce que vous dites.
Pour moi, c'était pas un métier.
C'est vrai.
Mais je suis très content qu'on ait eu cet épisode avec Gabriel Attal. Quand il est arrivé au ministère de l'Éducation nationale, on a beaucoup échangé sur le harcèlement scolaire. Ouais. On s'est engagé à ses côtés, on a fait une soirée porté par Faustine Bollard avec un documentaire poignant.
On l'avait reçu à cette occasion d'ailleurs.
Qui a vraiment été très fort. Et donc c'est lui qui avait vu Askip, et j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas Askip, c'est une fiction qui tournait dans un collège à 7, un magnifique collège d'ailleurs, qui raconte la vie réelle des collégiens. Donc Gabriel Attal, il restera toujours ministre de l'Éducation nationale, vu que maintenant il est même dans les mémoires d'une série télé.
Ouais, absolument.
Absolument. Puis il chapote encore un peu ce ministère quelque part. Terminé pour
c'est
les news médias, Damien.
Aujourd'hui, oui.
Alors place au grand entretien du Boss TV. Nous sommes avec Stéphane Sidbon-Gomez. Alors Stéphane, on va parler de l'événement, évidemment. Hein. France Télévisions diffusera l'été prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques, la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain à Paris. Est-ce que, comme ça, là aujourd'hui, on est à peu près à 6 mois, vous avez l'impression de vivre l'année la plus importante de l'histoire de France Télévisions? Jamais la télé n'a connu des Jeux Olympiques hein, chez nous.
Sans aucun doute.
Ouais.
Vous l'avez dit, et moi je le répète assez souvent aux équipes, hein, ça arrive une fois tous les 100 ans.
C'est ça. Et 1924,
c'est une chance inouïe. pour un directeur des antennes et des programmes, mais au-delà de moi, pour toutes les équipes de France Télé, d'être au cœur de cet événement qui va être un événement en rayonnement mondial. Oui. Le monde entier va avoir les yeux tournés vers Paris. Et donc, pour nous, c'est un honneur exceptionnel. C'est aussi un poids parce qu'il faut être à la hauteur. Mon pari, les équipes me disent, je suis un peu dingue, mais c'est d'espérer que 100% des Français viennent regarder les antennes de France Télévisions pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Parce que vous savez qu'on va
faire 100% de PDA, ou vous voulez dire qu'à un moment,
non,
tout le monde soit
moment,
venu,
au moins une fois,
d'accord.
À un moment, tout le monde viendra. Et je fais même le pari qu'un Français sur deux passera sur France.tv, notre plateforme, que ce soit sur son mobile, sur téléconnecté ou sur une tablette, pour voir un moment d'épreuve. 100%, c'est un rêve dingue.
Et seuls les Jeux Olympiques peuvent le faire.
Exceptionnel. Et seuls les Jeux Olympiques peuvent le faire. Et donc, c'est une responsabilité pour nous d'accompagner cet événement qui est porté par tout le pays, parce qu'il y a tout le pays qui est mobilisé pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Sûr. Et j'en profite, on va faire quelque chose d'inédit. C'est la première fois que les Jeux Paralympiques vont être traités de la même manière que les Jeux Olympiques, avec autant d'expositions sur France 2 et sur France 3. Et c'est aussi la première fois pendant les Jeux Olympiques que les deux plus grosses chaînes, France 2 et France 3, pourront diffuser en même temps les Jeux. Donc, on va offrir une exposition sans précédent à ce double événement que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Alors justement, France 2 et France 3 seront entièrement dédiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Seuls les journaux d'information vont rester tels quels sur la grille. Et Télématin. Et les émissions religieuses aussi.
Oui, bien sûr.
Quels sont les grands rendez-vous que vous avez l'intention d'implanter sur la grille pour couvrir ces Jeux Olympiques?
En gros, la journée commencera dès Télématin, qui sera vraiment dédiée entièrement aux Jeux Olympiques. Ensuite, on aura les épreuves. On aura le 13h et le 20h qui seront plus près des épreuves. Vous savez qu'on aura Géoclub, le magazine à rédaction des sports, qui reviendra tout au long de la journée, qui assurera aussi la continuité. Et puis, on a annoncé une petite surprise, un petit cadeau, vu que Léa Sahamé, dont on vient de parler, animera avec Michel, d'ailleurs. Quel jeu?
Pour la première, c'est ce qu'il a dit.
Oui, au début, on voulait qu'il soit là tous les jours. Et puis, comme il l'a raconté, ses médecins lui ont dit, Michel, une quotidienne en deuxième partie de soirée à 23h tous les soirs, c'est pas raisonnable. Donc, on souhaite qu'il soit là le plus possible.
Il sera remplacé quand il sera pas là,
ou plein de visages. Léa Salamé, elle sera là tout le temps. Elle sera accompagnée de plein de visages qui fédèrent, qui représentent France Télé, mais aussi, l'idée, ce n'est pas de faire un magazine sportif, la rédaction des sports le fait par ailleurs très bien, c'est de faire vraiment un magazine de société qui célèbre la fierté française. Moi, je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un moment du roman national, du récit national qui va dépasser de très loin le seul exploit sportif. Je pense que vous en parlerez à vos familles dans 20 ans. Et donc, on doit garder les meilleurs moments, la trace de ce moment incroyable.
Alors, deux chaînes linéaires, donc France 2 et France 3, et une grosse présence numérique, puisque le 8 mai prochain, vous allez inaugurer une chaîne numérique. Ce sera sur France.tv. On y trouvera quoi exactement ?
Alors, on la lance le 8 mai avec l'arrivée de la flamme à Marseille.
Oui, le départ de la flamme
olympique. Et le départ de la flamme olympique. Et notamment, déjà, on suivra toute la flamme, tout le parcours de la flamme sera transmis sur France.tv. Et puis, on a décidé d'accompagner cette chaîne. C'était un rêve que j'avais un certain temps. D'ailleurs, on m'avait dit, elle arrive quand, la chaîne olympique, etc. Des documentaires qui retraceront l'histoire des JO, des archives qui raconteront les meilleurs moments des Jeux olympiques depuis 100 ans, des émissions, du témoignage. Et donc, on a travaillé aussi avec l'INA. Toutes les pépites des Jeux seront exposées et puis du commentaire. Et ça, c'est un gros pari qu'on va faire sur France.tv. Alors, ce sera plus fort pendant les Jeux. Ouais. On transforme France.tv pour que vous ayez la possibilité de commenter. Et donc, on a créé un dispositif qui s'appelle FanZone. Ce que vous faites d'habitude sur votre canapé, vous pourrez le faire sur France.tv. Vous pourrez commenter chaque épreuve avec tous les gens qui viennent participer. Moi, ce que je dis, c'est France.tv va offrir, vous savez, tout le débat qu'il y a sur le prix des places. On offre à chaque Français sa place à toutes les épreuves des JO et même sa place pour être le meilleur commentateur olympique.
Intéressant. Alors, au-delà des Jeux et olympiques et paralympiques, on reste sur le numérique, puisque vous en avez parlé. Le public jeune, et vous l'avez dit, a tendance à quitter évidemment la télé linéaire pour les plateformes en ligne. Vous avez évoqué cette ambition numérique de France Télé, hein, il y a quelques jours dans une conférence de presse. En deux mots, comment vous allez vous y prendre pour retenir ce jeune public avec les plateformes, avec votre plateforme ?
Nous, on veut faire de la plateforme un lieu de rencontre et un lieu de rendez-vous. Aujourd'hui, elle marche très bien. Il y a 35 millions de Français qui viennent tous les mois sur nos plateformes numériques, que ce soit France.tv ou France Info.
Qui est énorme. Et on ne consomme pas seulement du replay. Hein.
Sans équivalent, on ne consomme pas que du replay. Les gens ont pris, comme je vous le disais, le réflexe de venir régulièrement, de s'intéresser à ce qu'on propose. Notre enjeu, désormais, c'est de fidéliser. C'est faire pas seulement que vous veniez dans le mois, mais que toutes les semaines, vous ayez envie deux, trois fois par semaine de dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a sur France.tv ?» Donc, on va proposer plus d'articles, plus de contenu. Il y aura des podcasts, sur les JO, par exemple, on va mettre les résultats en direct. On va beaucoup, beaucoup éditorialiser de la conversation, comme je vous disais, la possibilité de commenter. C'est des choses qu'au Figaro, vous connaissez très bien, parce que la presse le fait depuis longtemps, mais les plateformes de streaming, elles ne le font pas. Et puis, on fait beaucoup le pari du direct, de l'info, du sport. Vous savez, aujourd'hui, les plateformes de streaming, elles sont construites sur un modèle un peu froid, finalement, d'un super catalogue qu'on fait aussi. Hein. Nous, c'est une plateforme inédite de fiction française. On a un catalogue formidable. Mais on pense que ça ne suffit pas d'être le plus grand catalogue. Il faut aussi être le lieu de la réactivité, le lieu de l'information en direct, le lieu de l'approfondissement, du décryptage, du commentaire. Donc, France.tv, pour moi, c'est vraiment un média. Ce n'est pas seulement une plateforme.
Ce que fait TF1+, ça vous a aussi un peu poussé. Et on sait qu'ils proposent aussi beaucoup de choses, gratuitement ou en payant, hein, effectivement, les deux, notamment des films qui laissent beaucoup plus longtemps, des films de cinéma. Alors, comment vous réagissez par rapport à
nous, ça fait un certain temps qu'on expose pendant assez longtemps les films et on n'est pas du tout dans une compétition. Moi, ce que je dis toujours, c'est... Nous, notre but, ce n'est pas d'être les premiers.
Vous étiez ensemble dans Salto aujourd'hui. Oui, chacun fait un peu sa route à part et cherche son modèle.
Je regrette qu'on ait fait bande à part ou chemin séparé au moment de Salto, parce que c'était plutôt une belle expérience. Mais peu importe, j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous, notre ambition, ce n'est pas d'être les premiers, c'est d'être la plateforme préférée des Français, d'être la plateforme où on est les plus aimés, où les Français, on trouve le meilleur. Nous, on fait le choix... très différent de nos concurrents privés, d'avoir que de l'offre française, des séries françaises, du cinéma français, ou bien de temps en temps, on prend du cinéma américain très éditorialisé, comme Hitchcock ou l'animation japonaise. Mais on fait un choix qui n'est pas de vous donner juste ce que vous aimez déjà, Mais c'est notre rôle de service public d'éveiller la curiosité et de vous faire découvrir ce que vous pourriez aimer. Donc c'est ça notre pari.
Alors à la télévision, il y a un magazine qui a fait beaucoup parler ces derniers mois. Il s'agit de Complément d'enquête diffusé sur France 2, très présenté par Tristan Walex, qui est venu plusieurs fois dans cette émission pour en parler. Alors le numéro consacré à Cyril Hanouna a rassemblé au total près de 4,5 millions de téléspectateurs. C'était un record. Avec le replay, absolument, en audience consolidée. Comment vous avez vécu toute l'agitation autour de cette enquête qui a été donc diffusée sur France 2?
Et on rappelle qu'il avait proféré un certain nombre de menaces contre France Télé, Cyril Hanouna.
Alors, avant de répondre sur Complément d'enquête, moi, mon souhait, ça fait un moment que je travaille là-dessus, en 2024, mais même pour France Télé, c'est ce qu'on appelle la résonance. C'est-à-dire qu'au-delà de la seule diffusion du programme télé, on veut créer de la conversation sur les réseaux sociaux ou dans votre salon.
On veut faire
du débat public, on veut peser. On va le faire sur des moments forts, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on choisit cette année d'avoir une programmation très événementielle et très forte. Alors, évidemment, quand je vous dis que c'est notre objectif stratégique, Complément d'enquête le fait. Ouais. Mais il ne le fait pas juste avec du buzz pour le buzz. Avec un travail journalistique d'investigation poussé, où des journalistes travaillent pendant des mois sur leur sujet, que ce soit Gérard Depardieu ou Cyril Hanouna, ils produisent des images qu'on ne connaît pas auparavant. Et c'est ça qui fait réagir, c'est ça qui suscite la curiosité, c'est ça qui amène. Après, si je vous dis que c'est de tout repos, ce n'est pas vrai.
Oui.
Évidemment, quand on va sur ces terrains-là, ça explose plus particulièrement. Mais je trouve que les deux enquêtes, elles ont fait parler, elles ont eu du succès, mais c'est surtout un travail journalistique d'ampleur.
Le fait que lui et Jacques Cardoz préparent une contre-enquête, ça vous inquiète? Vous dites que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut?
Moi, je défends la liberté d'investigation et d'information, donc évidemment... Je la défends partout, sur France Télévisions ou sur C8, et même quand c'est sur France Télévisions, il n'y a pas de secret à cacher.
Alors, autre numéro qui a fait beaucoup parler, c'est celui sur Gérard Depardieu. Le président de la République lui-même y est allé de son commentaire. Il a insinué lors d'un entretien, dans C'est à vous d'ailleurs, sur vos antennes, qu'une séquence avait pu être modifiée au montage. Cette remise en cause du travail des journalistes de France Télévisions par le chef de l'État, ça vous a choqué?
Nous, on a évidemment, quand le président de la République fait cette remarque, ça éveille chez nous un devoir de clarification, de transparence. Et donc, c'est ce qu'on a fait dès le lendemain avec les équipes. On s'est posé des questions, les équipes de la rédaction qui travaillent là-dessus en toute indépendance, sont posées la question de comment on répond journalistiquement, parce que, vous le savez, sur les enquêtes, on a des rushs, mais les rushs, c'est le travail du journaliste.
Oui.
On s'est dit que là, il fallait faire œuvre de transparence. C'est le choix qui a été fait en faisant appel à un huissier de justice. Et je pense que de manière générale, il faut toujours faire le choix de la transparence. On est dans un moment avec les réseaux sociaux où la méfiance, la rumeur, il y a plein de choses qui circulent. Donc nous, notre devoir, avec tout le monde, c'est un devoir de transparence. L'audiovisuel public, c'est son nom, il est public. Donc tout doit être ouvert et tout doit être public pour le citoyen.
PPD1, Depardieu, Cyril Hanouna, il y a Marc-Olivier Fogiel prochainement. Complément d'enquête s'attaque beaucoup à des gens, des personnalités maintenant, au-delà de corporations, de sociétés. C'est dangereux. Est-ce que c'est bien qu'on fraternise d'ailleurs beaucoup de gens de télé là-dedans, quand même?
D'abord, ça fait longtemps que Complément d'enquête fait des portraits. Et c'est une tradition qui remonte à la création.
Mais là, sur la télévision, ça en fait quand même pas mal ces derniers temps.
Moi, je retiens, ceux-là, c'est ceux qui font le buzz. Mais moi, ce que je vois, c'est Complément d'enquête sur le Hamas, juste après les événements du 7 octobre. Le document est remarquable. Et je vous invite à le regarder. Ils font beaucoup de sujets de fond. Après, je pense que ce n'est pas seulement eux, c'est aussi l'époque qui a fait des stars du cinéma et de la télévision,
des
grandes figures publiques.
Mais c'est aussi d'autres chaînes de télévision.
Oui, je pense qu'ils font aussi une démonstration d'indépendance en montrant qu'il n'y a pas de sujet. Juste pour que les choses soient claires, Complément d'enquête, c'est une rédaction indépendante qui choisit ses sujets en toute liberté. Et moi, généralement, je les apprends au moment où ils le diffusent, au même moment où vous l'apprenez. Je pense que défendre cette indépendance, c'est la liberté de l'investigation, la liberté des médias en général. Dans un moment où on entend de plus en plus « faut pas aborder tel sujet parce que ça gêne l'actionnaire ou l'annonceur, etc. », je pense que défendre la liberté, c'est plus que jamais indispensable.
Nous recevrons à votre place Bruce Toussaint. Bruce Toussaint qui a lancé la matinale de TF1 face à Télématin. Alors un petit mot avant que vous posiez votre question à Bruce Toussaint. Cette nouvelle concurrence pour Télématin, qu'est-ce que vous en pensez? Ça a démarré fort, ça a ensuite un peu baissé. Inquiet, pas inquiet, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle concurrence?
Bon, Télématin va fêter l'année prochaine 40 ans d'existence. Mmh. Et à l'époque, c'était un monopole. Depuis, avant TF1, il y a eu 4 matinales de chaîne info qui sont venues dans le paysage. Donc on sait qu'on est dans un paysage de plus en plus concurrentiel. Et maintenant, il y a Bonjour sur TF1. Bon, ça veut dire que la télévision du matin a un avenir. Donc moi, je salue plutôt l'énergie qui est mise là-dessus. Et on a travaillé ensemble avec Bruce Toussaint. C'est un excellent journaliste. C'est quelqu'un qui est très chaleureux par ailleurs et qui fait beaucoup de bonnes choses. Moi, j'ai du respect. Après, Télématin, c'est une équipe exceptionnelle. Thomas Soto et Marie Portolano font un boulot formidable.
Vous n'êtes pas inquiet, en fait.
Et donc, je suis assez serein.
Assez serein. C'est à vous, Stéphane Simon Gomez.
Bon, ça, Bruce, j'espère que tu vas bien, que tu ne te réveilles pas trop tôt. Quand tu as fini, tu reviens à la maison.
C'est une question ou c'est une proposition déjà?
Point d'interrogation.
Point d'interrogation, d'accord. Vous pouvez faire une proposition ici, hein, ça marche aussi. Merci beaucoup, Stéphane Simon Gomez, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. C'est l'année des JO. Beaucoup, beaucoup de choses, évidemment, à venir sur France Télé. On remercie encore de votre temps.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.